Alors, si ce soir, on va regarder le sujet de la prière. Et le sujet, c'est comment on peut passer du stade du devoir, parce qu'on sait que prier, c'est un devoir. Dieu nous commande de prier. On le fait si peu, à notre plus grande honte. Mais il y a un moyen, il y a des moyens bibliques pour nous faire passer du stade du devoir, autrement dit, tu pries parce que tu sais que Dieu te le demande, à celui du délice. Que pour toi, prier, c'est plus une corvée, ça devient même un délice. Alors, je trouve que c'est un sujet intéressant. Je me souviens d'avoir déjà lu des grands hommes et des grandes femmes de prière du passé. Ça a existé. Combien d'entre nous peuvent dire que quand ils prient, ils le font avec un délice? Permettez-moi, on est tous pareils et à quelque part, il y a des moyens pour passer du devoir au délice. Et il y a des grands hommes et des grandes femmes de prière du passé qui y sont arrivés. Et pour eux, la prière, c'est tellement un grand plaisir que tout ce qui peut venir empêcher qu'ils prient, pour eux autres, c'est comme si c'était leur ennemi. Ils aiment prier. Pourquoi ils aiment prier? Puis pourquoi nous autres, on a tant de misère à rester plus que 10 minutes en prière, des fois même pas, 5 minutes, puis notre esprit part dans toutes les directions. Il y a des raisons à tout ça. Alors, c'est ça qu'on va regarder un petit peu ce soir. Alors, le stade, si on veut passer du stade du devoir à celui du délice, on va regarder trois choses. Les prérequis, qu'est-ce que ça prend pour pouvoir arriver à le faire? La deuxième chose, on va regarder sa pratique. Ceux qui sont arrivés à ce stade-là, comment ils pratiquent ça? Et le troisième point, on va regarder sa promesse. Dieu nous fait des promesses quand, pour arriver à ce style de prière-là, n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est un exemple formidable pour nous quant à la prière. Prier une nuit entière. Le Seigneur a fait ça. Alors, s'il priait une nuit entière, c'est parce que quelque part, il avait une communion avec son Père. Et je pense que c'est ça qui nous manque, un peu la communion avec notre Père. On est juste en mode. Les Anglais, ils ont une belle expression que j'aime, c'est gimme, gimme. On est souvent en mode gimme, gimme. On s'en va devant le Seigneur, puis tout ce qu'on réussit à dire, c'est donne-moi, donne-moi, donne-moi. On est comme des sangsues, on veut tout avoir, mais on ne prend pas le temps de rentrer en communion avec lui. Et ceux qui réussissent à le faire, c'est là que la prière devient un délice. À quelque part, je trouve que c'est important de réviser un petit peu ces notions-là. Alors, on le sait, la prière, c'est un devoir pour le chrétien. Le Seigneur nous commande de prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Vous vous souvenez du verset? Priez sans cesse. Comment se fait-il que nous considérons la prière comme un fardeau? C'est ça le sujet. Comment passer du fardeau au délice? Les Saintes Écritures nous enseignent qu'elle peut, la prière, devenir un véritable délice. Psaume 36, versets 7 à 9. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Hey, c'est des mots forts, ça. Ça dit que Dieu abreuve les hommes au un torrent. Vous avez déjà été, comme je suis aux chutes Montmorency, chaque fois que je traverse ce petit pont des chutes Montmorency, tu regardes ça couler en bas, là. Un torrent, là, c'est. Il y en a beaucoup, là. Il dit, on parle de torrent de délices, parce qu'il parle de Dieu qui déverse sur les hommes. Il dit, tu les abreuves au torrent de tes délices. Ça, il y en a. Comment c'est sûr qu'on ne les ressent pas? Verset 10, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors, le mot délice au pluriel traduit les idées suivantes. La délectation. Pas quand on mange un bon dessert, là. Quand je vois ta femme, ben non, des desserts qu'un autre a fait. Là. Puis là, quand tu dis, oh, t'as envie de te rouler par terre, c'est bon. C'est ça la délectation. Après ça, le transport d'allégresse. On serait censé, quand on se présente devant le Seigneur, si on reste suffisamment longtemps devant lui, on a des transports d'allégresse. L'allégresse, c'est une joie intense qui dure, qui t'amène au point d'avoir envie de danser. Combien de temps, quand on prie, c'est ça qui nous arrive. Le ravissement, quand on dit on est ravi devant Dieu. Après ça, la joie vive. Parce que tu es devant ton Seigneur et tu vois certains aspects de sa personne qui te... Après ça, l'émerveillement, l'admiration, l'enthousiasme et l'intense adoration. Des fois, ça arrive, je ne sais pas si ça vous est sûrement déjà arrivé, des fois, on voit soit un paysage ou on lit un verset qui nous parle d'une façon particulièrement intense. Quand on dit une intense adoration, on arrive... L'admiration est grande, on est en admiration devant le Seigneur. Donc, les délices, c'est la plus haute et la plus complète satisfaction qu'un homme peut obtenir. Pour un chrétien, là, en arriver au stade de délices dans la prière, il n'y a pas rien de terrestre qui peut t'amener à un niveau comme ça. Dans son livre, qui s'appelle « Lessons in the School of Prayer », autrement dit « Leçons à l'école de la prière », le pasteur américain qui s'appelle A.T. Pearson, il a remplacé, lui, Charles Spurgeon, à son époque. Alors, imaginez la qualité du pasteur pour être capable de remplacer un homme comme Charles Spurgeon, qui avait des 8-10 000 personnes qui l'écoutaient tous les dimanches. Il faut que tu aies, du talent dans ta prédication. Il écrit ce qui suit sur le sujet de la prière. « Celui qui se précipite dans la présence de Dieu et se hâte d'en sortir par le moyen de quelques requêtes froides et formelles, pour ensuite retourner rapidement à ses soucis et poursuites, ne demeure certainement pas assez longtemps devant Dieu pour perdre ce qui se passe à l'extérieur, donc le monde, et pour s'imprégner de ce qu'il y a dans le lieu saint. » Autrement dit, la première idée est en train de dire qu'on ne reste pas assez longtemps devant Dieu à attendre qu'il nous parle. On fait juste du « gimme, 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 gimme ». On ne prend pas le temps de dire « Seigneur, c'est une communion, la prière. Ça devrait être une communion. Ça devrait. Et on devrait attendre qu'il nous parle. On est tellement pressé, comme il dit, de retourner à nos soucis, de retourner à nos requêtes froides et formelles, et ça nous fait manquer le bateau quelque part. » Deuxième paragraphe, il parle de l'homme de prière. Il ne prend pas le temps de fixer son esprit sur l'invisible et l'éternel. Plusieurs supposés hommes de prière n'ont jamais atteint le stade de la rencontre authentique avec le Seigneur. Leur âme est continuellement dérangée et perturbée par des pensées et des soucis de ce monde. Ça vous arrive-tu, ça? On prie, puis on essaie de garder notre esprit fixé sur Dieu. Pour mes nouvelles conseils, les idées nous viennent, on part dans toutes les directions, on ne prie plus, on s'égare, autrement dit. Alors, il dit, on continue, il dit, « Comme un lac troublé par de grandes vagues ne peut refléter fidèlement la beauté du firmament, ainsi leur âme ne peut-elle pas refléter comme un miroir la beauté de Dieu? » Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, sûrement. L'âme doit d'abord avoir été calmée et devenir comme celle d'un lac parfaitement calme. Quand on va devant le lac Mégantic, là, le matin de bonne heure, puis qu'il n'y a pas de vagues, là, c'est beau, ça reflète le ciel. Bien, c'est ça qu'il est en train de dire. On ne reste jamais assez longtemps dans la présence de Dieu pour attendre ce moment où Dieu se communique à nous. Moi, je suis sûr que ceux qui sont rendus à ce stade-là, c'est ça qu'ils ressentent, ils rient, ils sont devant le Seigneur et ils attendent que le Seigneur leur parle. Et quand le Seigneur commence à communiquer avec ton âme, il se passe quelque chose d'extraordinaire, tu n'as plus de goût de t'en aller de là. Tu veux rester là. Alors, ça dit, la troisième paragraphe, et après ça, on se termine pour sa citation. « Lorsque la communication avec Dieu atteint ce stade, la prière cesse d'être un fardeau, pour devenir un véritable délice. Tout sens de l'obligation est perdu pour laisser place au privilège. C'est plus une obligation, c'est le fun. C'est un privilège. » L'âme aime alors être simplement en la présence de Dieu. Elle apprécie d'être avec lui. Elle peut alors expérimenter et apprécier le moment à un très haut degré de satisfaction. Elle s'exprime alors en disant « J'aime être en ta présence, papa d'amour. » C'est fort, hein? « J'aime être en ta présence, papa d'amour. » Est-ce qu'on prie souvent avec de ce qui parle là? Mais il y a moyen de corriger ça. Comment pouvons-nous, alors, passer notre vie de prière du devoir, celle qui est un fardeau, à celle du délice? La première chose à considérer, c'est qu'il y a des prérequis. Un peu comme quand tu vas à l'université, si tu veux rentrer en faculté de médecine, il va y avoir des prérequis. Il va falloir que tu fasses tel cours. Mais pour atteindre ce stade-là, ça prend des prérequis. Premier prérequis, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, une âme régénérée, une personne qui n'est pas née de nouveau, n'atteindra jamais ce stade-là. Alors, pour une expérience authentique du stade du délice dans la prière, l'âme doit avoir reçu la foi biblique, celle qui comprend les éléments suivants. Le contenu, soit les doctrines de la grâce. Alors, on parlait d'une des doctrines de la grâce, la rédemption particulière. Il faut que tu aies compris le contenu de ce que c'est la grâce de Dieu. Le consentement, autrement dit, tu es d'accord avec la manière de vivre que Dieu te prescrit dans les Écritures. Et la troisième chose, la confiance totale en Dieu. Ça, là-dessus, on est souvent manquant, on manque de confiance en Dieu. Première chose, une âme régénérée. Deuxième chose, une âme refocalisée. Vous savez ce que c'est un focal? Quand vous prenez un bout de papier, quand on était jeune, on faisait ça. On prenait un bout de papier, on mettait ça sur une table ou sur une roche, puis on avait une loupe. Puis on prenait la loupe, puis on jouait avec le focus jusqu'à ce que la feuille prenait en feu, à cause du fait que la lumière, on savait la concentrer à bonne place. De la même manière qu'une loupe peut enflammer un objet lorsque les rayons de soleil sont concentrés, de même, l'âme qui veut expérimenter le stade du délice dans la prière doit avoir une vie réellement centrée sur la personne de Christ. Et c'est là que ça se passe. Troisièmement, une âme reconsacrée. La consécration de notre vie à Dieu comprend plusieurs choses. Comprend la décision définitive, que tu vas le suivre à tout prix, et ça comprend aussi l'élément d'accorder du temps à cet effet et le rappel que le Seigneur prend plaisir en l'âme qui le recherche. Je pense qu'un de nos problèmes, c'est accorder du temps. Et accorder du temps de qualité. Où tu fermes, comme le Seigneur dit, ferme la porte, rentre dans ta chambre, du silence. Ça te prend, devant Dieu, ça nous prend du silence. Pas la radio joue, la télévision joue, les discussions avec des gens autour de toi. Ça ne marchera pas. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. Le Seigneur est en train de faire un reproche à son Église. Il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Il est en train de parler à une église. Il dit, vous avez perdu votre premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique les bonnes œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'Église, le Seigneur peut fermer une Église qui ne prie plus, qui n'est plus devant lui, qui n'est plus dans l'obéissance, qui n'est plus dans la bonne doctrine. C'est ça que ça veut dire, je vais enlever ton chandelier. On est un chandelier dans l'Ac Mégantic, dans la région de Nantes. Et si on ne fait pas attention à ce que Dieu nous commande, il peut fermer l'Église, comme je l'ai mentionné tantôt, deux églises que je connais qui ont fermé récemment. Le chandelier était enlevé. Deuxième point, le stade du délice, sa pratique. Autrement dit, notre part. Les prérequis, il n'y a que Dieu qui est capable de nous donner l'âme régénérée, bien entendu, une âme refocalisée, puis une âme reconsacrée à Dieu. Le deuxième point, c'est vraiment le stade du délice, sa pratique. C'est une pratique qui a été prouvée. Quand je vous disais tantôt qu'il y a des grands hommes et des grandes femmes de l'histoire, j'en ai des biographies à la maison, ceux qui sont intéressés à des grands hommes et des grandes femmes de prière. Ils ont des vies extraordinaires, ces gens-là, en général. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'on est porté à regarder les grands hommes et les grandes femmes de l'Église comme étant uniquement des héros et ce stade-là n'est pas accessible à nous. Complètement faux. C'est accessible à tous les chrétiens, sans exception. Pourquoi on ne l'atteint pas? C'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute. Alors, les grands héros de la foi, je vais vous en nommer quelques-uns. L'ont abondamment démontré. Hudson Taylor, je ne sais pas si c'est une autre, ça vous dit quelque chose, c'est un Anglais qui est allé faire de l'évangélisation en Chine des années 1800, fin des années 1800. Il a une vie extraordinairement intéressante. J'ai son livre en français à la maison, si ça intéresse. Hudson Taylor, il a une vie extraordinaire. Mais c'était un homme de prière. Un autre, William Burns. William Burns, c'est un autre Anglais, à peu près, qui vit à peu près à la même époque. Et cet homme-là était considéré par ceux qui l'ont connu comme étant l'homme qui s'est le plus sanctifié de son temps. Tous ceux qui l'ont connu, sans exception. C'est rare quand on entend parler d'un chrétien dont tous ceux qui l'ont connu disent: j'ai jamais connu un homme aussi zélé, aussi consacré. L'homme que je vous ai parlé tantôt, là, c'en est un de ce style-là que j'ai connu. Christmas Evans, Mordecai Ham, Robert Murray McShane, David Brainerd, Sarah Cook, ça c'est une femme. Jonathan Gopher, un Canadien qui vient de Toronto. J'ai lu sa biographie. Extraordinaire. Mais c'était des hommes qui faisaient du travail de prière. Et ils aimaient la prière. Et le Seigneur répondait à leurs prières. Et ils ont eu des ministères bénis au-delà de tout ce qu'on est capable d'imaginer. Alors, tous ces gens-là s'accordent à affirmer que le secret de leur ministère et de leur prédication était qu'ils s'attardaient à la prière jusqu'à ce que l'onction du Saint-Esprit se manifeste. Tu sais, le dimanche, des fois, je vous dis, priez pour que le Seigneur mette l'onction sur le prédicateur, mettre l'onction sur les auditeurs. Faut prier pour que Dieu se manifeste par son Saint-Esprit dans l'Église. Alors, il s'attardait à la prière jusqu'à ce que l'onction du Saint-Esprit se manifeste. C'est une expérience qui est précieuse. Voici ce qu'un homme de Dieu, David Brainerd, c'est un Américain qui a vécu aux mêmes époques que Jonathan. Non, pas Gopher, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, c'est un homme aux États-Unis qui est reconnu comme étant un des plus grands théologiens de toutes les époques, de tous les temps, en anglais, là. Jonathan Edwards. Et c'était son gendre, David Brainerd, qui a évangélisé les Indiens à son époque. Voici ce qu'il disait sur la prière, lui. Une heure avec Dieu surpasse infiniment tous les plaisirs et les délices de ce bas monde. Une expérience aussi qui est profitable, parce que ça comprend une communion constante avec Dieu. Le psaume 25, 14, là, moi, c'est un verset que quand j'ai compris ce qu'il voulait dire, j'ai tellement trouvé ça extraordinaire. Psaume 25, 14, ça dit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel, si tu regardes dans la version Darby, dans le bas, il y a une petite note, ça dit que l'amitié de l'Éternel, ça veut dire les communications intimes. Ça veut dire Dieu te parle de façon intime et toi, tu lui parles de façon intime. Des communications intimes, un peu comme un couple qui s'aime beaucoup. Dans l'intimité, ils se disent des choses qu'il ne dira pas devant tout le monde. Mais Dieu, il fait la même chose avec ceux qui le craignent. C'est ça que ça dit dans le psaume 25, 14. C'est extraordinaire, ce verset-là. Quand on le comprend vraiment, Dieu est en train de dire que si tu le crains, il va avoir avec toi des communications intimes. Ben moi, je suis convaincu que ça a un rapport avec ce qu'on est en train de parler de ce soir-là. La communication intime, elle s'établit quand tu crains Dieu, quand tu pries, puis tu attends que Dieu te parle. Tu ne fais pas juste lui demander des choses, ta liste d'épicerie, comme on dit. Alors, bien entendu, une expérience qui est profitable parce que ça t'amène à une connaissance intime de Jésus-Christ. Ça t'amène à avoir un épanchement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient t'habiter, vient parler à travers toi. Ça t'amène un zèle pour les âmes. Tous les grands hommes et les grandes femmes de prière étaient des personnes qui priaient énormément pour la conversion des gens autour d'eux. Ils ont eu beaucoup de réponses du Seigneur aussi. Quand tu lis leur vie, tu trouves ça extraordinaire. Tu trouves ça vraiment extraordinaire. Un zèle pour les âmes, une recherche intense de la sanctification, c'est ça que ça leur amène. Une entière consécration. Y a-t-il d'entre nous qui peut dire que tous les chrétiens qui connaissent sont entièrement consacrés au Seigneur? Il nous en manque beaucoup dans la consécration. La louange et l'adoration constante, ceux qui sont proches du Seigneur vont passer leur temps à louer Dieu et ils vont être en communion constante avec Dieu. Un plus grand amour fraternel. Un plus grand amour des Écritures. John Sung, un Chinois, a lu sa Bible 40 fois en 193 jours. 193 jours, c'est à peu près 6 mois. 40 fois. Toute la Bible, chaque 5 jours. Il y a eu un moment dans sa vie, je l'ai lu un petit peu sa biographie de cet homme-là, John Sung, c'est extraordinaire. Il a lu un bout de temps, il est allé pour étudier aux États-Unis, mais à un moment donné, il y a eu un bout de temps que là, il n'aimait pas ce qui se passait dans les écoles bibliques à cette époque-là. Il s'est mis à lire sa Bible. Il dit, OK, je n'aime pas ce qui se passe là, mais je vais tomber dans ma Bible. Il a lu sa Bible 40 fois en 193 jours. Il a eu une vie extrêmement bénie dans son ministère en Chine, quand il retourne en Chine. Et ça t'amène aussi une joie et un bonheur réel et profond, et eux aussi une véritable crainte de Dieu. Troisième point, le stade du délice, sa promesse, donc la part de Dieu. On vient de parler de la part de l'homme. On va parler maintenant de la part de Dieu. Ça t'amène à une intimité avec lui. Alors Dieu se révélera lui-même à nous. Il va nous révéler une partie de sa perfection, son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, sa patience, son omnipotence, son omniprésence, sa vie, sa sagesse, sa colère, sa sainteté, sa véracité, sa fidélité, sa toute suffisance et son immutabilité, etc. Quand il dit qu'il se révèle à toi, c'est que des choses ont dit, ah, OK, l'omniprésence, je sais c'est quoi. Ouais, tu penses, tu sais, mais tu ne sais pas tant que ça, peut-être. Le Seigneur va parler à ton âme de manière à ce que tu vas découvrir de plus en plus chacune des facettes de sa personne. Et ça, quand tu découvres ça, que le Seigneur permet que la communication passe entre lui et toi, il se passe de quoi d'extraordinaire, là. Donc, une intimité avec lui, et tu vas te délecter dans ses noms. J'ai un petit livre à maison, sans les 100 noms de Dieu. Dans les Écritures, il y a une centaine de noms par rapport à Dieu, par rapport à Christ, par rapport au Saint-Esprit. Tu vas finir par comprendre qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'à l'époque de la Bible, un nom signifiait beaucoup de choses sur la personne. Et chaque nom différent de Dieu révèle un aspect, une facette de sa personne. Et Dieu permet que ceux qui entrent en communion avec lui, il va se révéler à toi. Et tu vas comprendre de plus en plus de choses sur lui. Et quand que Dieu commence à te bénir de cette façon-là, penses-tu que tu as le goût de sortir de ta prière? Tu n'as pas le goût de sortir de ta prière. Alors, les adjectifs utilisés par les grands serviteurs de Dieu pour décrire cette expérience-là, voici ce qu'ils disent. Douceur, exaltation, ça veut dire élévation, extase, quand Paul dit que... Il est allé au troisième ciel, l'extase. Il dit qu'il n'est pas capable de répéter les paroles qu'il a entendues. Il n'est pas capable de les répéter tellement. C'est des choses qu'il n'est pas capable. Le sacré, le sublime, le plaisant, le joyeux, l'excellent, le merveilleux, le paisible, l'inépuisable, l'insondable, etc. Autrement dit, Les adjectifs utilisés par les grands serviteurs et les grandes servantes de Dieu pour décrire cette expérience, c'est tous ces adjectifs-là où on pourrait parler très longtemps pour chacune. Autre chose, le Seigneur va te donner aussi, dans sa promesse, une infinité de ressources. Les ressources infinies du Seigneur lui-même. Si on était proche de Dieu, puis qu'on comprenait vraiment qui il est et ce qu'il est capable de faire, ses ressources sont à notre disposition. Et le Seigneur Jésus le dit dans les évangiles. Comment ça se fait qu'on prie si peu, puis avec si peu de plaisir? Il faut se poser des questions. L'inépuisabilité aussi de ses bénédictions. Autrement dit, Dieu est tellement riche dans ses bénédictions qu'il est impossible de... On n'est pas capable de vider ses bénédictions, tellement sont immensément nombreuses. Ils sont illimités, ils sont infinis, ils sont inénarrables. Inénarrable, c'est un beau grand mot, mais qui veut tout simplement dire que comment j'essaierai de te parler, là? Je ne serai jamais à la hauteur, même si je serai le meilleur et l'homme le plus éloquent du monde, quand on parle de Dieu, on est toujours en deçà. Incessante, alors toutes ces choses-là seraient là. Spurgeon a dit, « Les hommes, femmes et enfants qui trouvent leur délice en Dieu ne demandent et ne désirent que ce qui plaît à Dieu. Ainsi, aussi Dieu leur donne-t-il carte blanche. » Tu sais, quand tu dis de quelqu'un, tu lui fais confiance, je te donne une carte blanche, je lui dis, fais n'importe quoi, j'ai confiance en toi. Dieu dit que ceux qui prient de cette façon-là, il leur donne carte blanche. Notre volonté devient soumise à Dieu et peu importe ce qu'on leur demande, parce que ce qu'on demande, c'est toujours selon sa volonté. Alors, il nous l'accorde tout le temps. John Bunyan, ceux qui ont lu Le Voyage du Pèlerin, a dit, « Les désirs de Dieu et les désirs des justes s'accordent en harmonie. Ils sont d'un seul esprit dans leurs désirs. » Autrement dit, ce que Dieu veut, puis pour une personne qui se sanctifie, les désirs sont les mêmes. Alors, peu importe ce que tu demandes à Dieu, quand c'est des demandes selon sa volonté, il te l'accorde. C'est ça qu'il dit dans les Écritures. On le croit si peu. Trois applications pour terminer. Comme Robert Murray McShane, c'est un autre Anglais d'Angleterre, 19e siècle, a dit, c'est un homme qui est mort jeune, mais le temps qu'il a vécu, là, ça a été extraordinaire. Il dit, « Je dois donner mes meilleures heures de la journée en communion avec Dieu. C'est ma plus noble et ma plus fructueuse activité. » Toutes les biographies de cet homme mentionne que sa puissance dans la prédication était le résultat de son intimité avec Jésus. Deuxième application, on a écrit dans la biographie du pasteur Christmas Evans, qui a été puissamment utilisé par le Seigneur lors d'un grand réveil au pays de Galles au 19e siècle. Christmas Evans savait comment prier et par conséquent connaissait la puissance du Saint-Esprit. Il voyait la prière comme une activité qu'il devait pratiquer fervemment et intensément. Troisième application, prions plus et prions mieux. Implorons le Seigneur de nous instruire à l'école de la prière et de l'onction du Saint-Esprit. Il nous faut apprendre l'efficacité et l'immense portée du travail de genoux, ce que les Anglais appellent du « knee work », du knee work et du travail de genoux. Il y en a qui, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont tellement prié qu'ils étaient reconnus, qu'ils étaient presque toujours à genoux. Du knee work, des fois, on n'en fait peut-être pas de tout à fait. Alors, il nous faut apprendre l'efficacité et l'immense portée du travail de genoux, knee work, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.